sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots.
Comme à la radio.
Comme à la radio. Ça ne dérangera pas. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes.
Un mercredi par mois, de 17 à 18 heures.
Sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait
comme à la radio. Sur le 92.2 Canal Sud à Toulouse.
À la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce.
Bonjour, vous êtes sur Canal Sud 92.2 sur la bande FM et c'est comme à la radio jusqu'à 18h. Comme à la radio, c'est un peu de bruit pour briser le silence, parler du monde comme il va, comme il ne va pas, comme on le subit, comme on y agit, comme on s'y débat et s'y questionne sur notamment ce silence contrôlé autour du fonctionnement des centrales nucléaires, fleurons de l'industrie française, dont nous avons un exemplaire à 80 km de Toulouse, à Golfech. On continue donc aujourd'hui notre série d'émissions sur Golfech. Après une première qui évoquait la vie des habitants autour de la centrale, on va parler cette fois de société nucléaire, d'une société qui prétend gérer risques et dangers à grand renfort d'institutions de contrôle et de surveillance qui se veulent rassurantes, le tout pour assurer des profits gigantesques en mettant en danger en permanence la population. Alors on va aujourd'hui écouter quelques passages d'un entretien enregistré avec Monsieur Calafat. Monsieur Calafat est maire de Golfech, puis il a d'autres fonctions aussi, on le verra. Et réagiront en direct nos deux invités que je vais laisser se présenter.
Bonjour, Marc Saint-Armand, des Amis de la Terre, vulgarisateur scientifique, voilà. Essentiellement, j'épluche les dossiers de l'autorité de sûreté nucléaire et d'EDF et d'Areva pour essayer de tirer ce qu'on peut en tirer pour démontrer que les absurdités de la technique nucléaire.
Daniel Rousset, un très vieux militant anti-nucléaire. Et donc, je suis actuellement administrateur du réseau sûreté nucléaire et aussi également Ami de la Terre.
Merci d'être là. Alors, c'est une sorte de ping-pong radiophonique qu'on va vous inviter. Un ping-pong tout à fait partial, car on ne passera que quelques extraits de M. Calafat, qui, lui, ne pourra pas réagir en direct. Et on commence tout de suite avec ceci.
Donc, si vous voulez bien vous présenter.
Oui, donc Alexis Calafat, maire de Golfech. Je suis aussi vice-président de la communauté de communes des Deux-Rives et en même temps président de la commission locale d'information, ainsi que je suis le président au niveau national des maires de communes d'implantation de centrales électronucléaires. Je suis maire depuis 1989, donc ça va faire 23 ans. J'ai connu la mise en marche de la centrale électronucléaire de Golfech.
Est-ce qu'il y a des inconvénients ou quels sont les inconvénients d'avoir une centrale sur une commune?
Les inconvénients. Je dirais que si ce n'était pas le risque d'accident nucléaire, qui est quand même le plus important, qui est très important, on ne peut pas dire qu'il y ait d'inconvénients plus importants que n'importe quelle autre usine. Voyons, on y est à côté. Ça ne fait pas de bruit. Une centrale nucléaire est très propre. Bon, il y a un panache qui sort en permanence, mais c'est de la vapeur, d'eau, hein. C'est le refroidissement de l'eau, enfin le refroidissement du réacteur par l'eau qui fait que ça crée ce panache permanent. Donc il n'y a pas de rejet par ce panache de buée, en fin de compte. Hein. Comme je dis, ce n'était pas le fait du risque d'accident, d'attentats ou tout ce que l'on veut, on ne peut pas dire qu'on a de très bons rapports, que ce soit avec les employés ou la direction de l'EDF, tout se passe bien. Si vous avez l'occasion de visiter la centrale, vous verrez que pour y aller en costume cravate, vous ne prendrez pas un brin de poussière, parce qu'il faut que ces usines soient propres en permanence, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui contamine? C'est la poussière. Donc, vous marchez sur un sol qui brille et qui est comme ça. Les murs, tout, vous ne voyez pas une toile d'araignée, vous ne voyez rien dans une centrale nucléaire. Parce que la moindre impureté, la moindre saleté, c'est un nid à contamination. Donc, ils sont obligés de la tenir extrêmement propre. Donc, c'est ce que je vous dis, on vit comme tout le monde. Bon, si on n'a pas en tête sans arrêt que ça peut avoir un problème technique majeur qui peut, alors engendrer la catastrophe. On vit avec un voisin qui est gros, qui est, etc., qui est propre, etc., qui n'est pas une usine gênante, journalièrement. Donc, vous voyez, on vit très bien à côté parce que ce n'est pas une usine qui pourrait faire du bruit, qui pourrait. Un chevronnier qui risquerait moins un point de vue de machin, mais qui me pose plus de problèmes. J'avais une usine de chaudronnerie où j'avais tous les voisins qui sont venus parce qu'ils avaient de l'aliment, ils avaient du bruit, ils avaient tout. Alors qu'à la centrale nucléaire, il n'y a jamais personne qui est venu me voir en disant « Oh, cette usine, elle est quand même gênante, on a de ceci, on a cela. »
Alors cette usine propre, ce panache de buée, ces inconvénients mineurs, qu'est-ce que...
Bien, c'est assez intéressant de voir que, quand même, en tant que responsable de la commission locale d'information, M. Calafat ne parle pas des émissions radioactives qui sont rejetées en permanence depuis la centrale nucléaire. Donc c'est des rejets chroniques, il y en a dans l'atmosphère, il y a une cheminée qui balance en gros 45 000 milliards de mètres cubes d'air contaminé dans l'atmosphère, et vous avez des millions de mètres cubes qui partent dans la rivière d'eau également contaminée. Tout ça provient des circuits parce qu'il y a des fuites, il y a une énorme pression à l'intérieur du réacteur qui fait qu'il y a des fuites. Et donc c'est étonnant que M. Calafat ne parle pas de tout ça.
Il en parlera plus tard au cours de l'entretien. Par contre, par rapport à cette vapeur d'eau là.
Voilà. Donc la partie vapeur d'eau, effectivement, il y a essentiellement de la radioactivité naturelle dedans et pas mal de chimie. Il y a eu des bacilles, il y a eu la Légionella qui se promenait dedans. Il y a eu également d'autres bacilles qui étaient plus graves puisque c'était des bacilles tueurs qui donnent des méningites foudroyantes. Et tout ça, ils s'en sont aperçus au bout de 4-5 ans de fonctionnement. Et donc là, ils ont instauré, à partir des saisons qui commencent à être chaudes, c'est-à-dire la période qu'on a eue en février, après le grand froid, là, il y a eu un traitement qui a été effectué, mais on n'a pas été informé. Et là, maintenant, ils vont réenclencher, pour la période des estivales, des traitements chimiques lourds pour pouvoir tuer ces amibes pathogènes et ces légionnaires-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau, ça n'a pas été prévu au départ, ça a été découvert, un développement de bactéries. Donc ça, c'est un aspect juste sur les panaches de vapeur d'eau. Et sinon, après, sur les rejets, bon, c'est un deuxième aspect. Et puis, il y a également quelque chose qui est quand même étonnant là-dessus, c'est que il y a évoqué en 2012, donc en janvier 2012, une étude de l'INSERM qui montre un excès de leucémie et de cancer dans le périmètre 5 km des centrales nucléaires françaises. Donc, il y a un doublement des données statistiques sur le risque de cancer infantile. Et là-dessus, l'INSERM qui fait l'étude dit, mais appuyé par l'IRSN, qui est l'Institut de Recherche et de Sûreté Nucléaire, qui dit, mais les doses sont trop faibles pour qu'il y ait, que ce soit lié à la centrale nucléaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un doute qui est lancé là-dessus. Simplement, cette étude conforte ce qu'on savait en Allemagne, puisque ça avait déjà été démontré en Allemagne, en Angleterre, et donc en France aussi, on n'échappe pas à la règle. Il y a dans le périmètre 5 km de centrale nucléaire, il y a des problèmes d'excès de leucémie infantile. Et là-dessus, donc, pour un maire, c'est assez étonnant, d'autant plus qu'il vient de prendre une mesure gouvernementale qui lui limite les constructions autour de Golfech. Et ça, il l'a très mal vécu. Et en particulier, donc, il y a eu une loi qui vient de faire exception pour la gendarmerie. Et donc, la gendarmerie pourra s'étendre autour de la centrale de Golfech.
Et donc, cette usine propre, il nous parle aussi, et nous, ça nous a un peu étonnés au début, de la poussière. Il parle beaucoup de la poussière, du fait qu'il n'y a pas un grain de poussière, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi accorder une telle importance à cette poussière? Qu'est-ce qu'elle vient faire, la poussière, dans cette usine
Oui, en fait, c'est assez intéressant ce qu'il dit. C'est que visiter une centrale sans radiomètre, sans appareil de mesure, en fait, la radioactivité est incolore, inodore et sans saveur. Donc, aller visiter une centrale sans éléments pour contrôler la radioactivité, on y va comme si on allait au cinéma avec des lunettes noires. C'est une absurdité. Donc, on peut pas savoir ce qui s'y passe. Et quand il parle de grains de poussière, effectivement, une seule poussière radioactive, si c'est par exemple du plutonium, peut provoquer un cancer du poumon. Donc, effectivement, la poussière, c'est quelque chose de très très grave dans une centrale nucléaire.
Parle-nous des arrière-boutiques. Là, j'aimais bien ton idée de l'arrière-boutique.
Oui, ça, c'est en fait toute l'image qui est donnée sur le nucléaire français, c'est ça. C'est une image propre de propreté. On parle de poussière, on parle de peinture, etc. Le problème, c'est que un militant disait un jour, mais on nous montre jamais l'arrière-boutique. Quand on fait visiter une société, on nous montre l'avant, on montre pas l'arrière. Et là, effectivement, dès qu'on passe derrière, les choses changent. Et on a des témoins de qui travaillent chez EDF qui nous font la démonstration fréquemment de ce qui se passe réellement derrière. Et c'est vraiment une arrière-boutique qui est peu reluisante. Voilà. Donc il y a une façade qui est peinte, qui est brillante, et puis après, la vérité est autrement noire. Et en particulier sur ce que j'évoquais, donc sur les rejets, etc., autour de la centrale.
Par rapport au rejet, on peut peut-être justement parler d'un problème qui a eu lieu en 2010, c'est bien ça ?
Voilà, 2010, oui.
En janvier 2010, donc, il y a eu un rejet lors d'un transfert de liquide primaire, celui qui est en contact avec le combustible. Lors de son transfert, il y avait un circuit qui était en panne, il est passé par un autre circuit, et une partie est partie dans la nappe phréatique. L'incident a été... on a été informé en tant qu'antinucléaire par un salarié d'EDF 2 mois après. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a pas été déclaré, et le jour où ce gars-là nous donne l'information, EDF fait la déclaration à l'autorité de sûreté nucléaire. Déjà, ça démarre de façon assez suspecte. Bilan, donc, après maintes péripéties, on décide d'attaquer au tribunal. Le 29 mars, le verdict est rendu, on est débouté. Par contre, on n'a pas de condamnation par rapport à ce que demandait EDF.
Et ce qui est intéressant... On peut demander une condamnation.
Voilà, en plus, oui. Oui, donc ils font une infraction qui est reconnue, qui est avérée, qui est qui est notifiée par procès verbal par l'ASN. Et là-dessus, donc, ils tentent de nous réclamer des dommages et intérêts. Bon, donc là-dessus, ils sont déboutés. Ce qui se passe quand même, c'est qu'on a fait appel suite à cette décision. Et chose très intéressante, c'est que le parquet nous suit dans cette démarche. Donc bientôt, il y aura l'appel de cette affaire sur les rejets qui se produisent assez régulièrement sur des problèmes ponctuels. Après, j'évoquais au préalable tous les rejets chroniques qui se font de façon chronique en permanence à l'environnement, qu'ils soient radioactifs ou chimiques, ou thermiques, puisque à Golfech, par exemple, c'est important de le noter aussi, parce que c'est pas négligeable, quand vous sortez 1300 MW électriques, vous avez 5000 MW qui ont été produits, et le reste, c'est parti en chaleur, dans l'eau de la Garonne et dans le ciel du Tarn-et-Garonne. Voilà.
Avec des conséquences pour la faune et la flore de la Garonne, j'imagine.
Voilà, donc que ce soit dans l'environnement proche, c'est sûr qu'il y a un impact météorologique local, ça c'est évident. Quels sont les phénomènes qui sont en jeu ? Ce que je disais précédemment, c'est que l'IRSN dit que les doses de radioactivité émises par la centrale sont trop faibles pour justifier qu'il y ait des apparitions de leucémie de cancer infantile. Cependant, il y a des phénomènes de thermique et des phénomènes chimiques qui se rajoutent aux rejets radioactifs qui font que toute cette soupe-là peut être susceptible d'être à l'origine des cancers et des leucémies infantiles. Voilà. Mais ça, c'est des choses dont aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose. Simplement, le constat est fait et il y a des mesures à prendre rapidement, déjà pour éloigner les enfants de ces zones-là.
Donc là, on reparlait tout à l'heure en dehors du fonctionnement normal, des fois, il y a des looses et entre autres, ce rejet de tritium là dans la nappe phréatique. On vous propose d'écouter ce qu'en disait Calafat avant le rendu du procès à Castelsarrasin.
Mais oui, il y a un rejet. Ce qu'on peut condamner, c'est le fait de ne pas informer. Mais le rejet, il est insignifiant par rapport aux autorisations de rejet qu'a la centrale. Quand on est actuellement, je vais vous donner le chiffre plus haut que l'on a trouvé et sur lequel on a bondi, c'est 7 becquerels litres. Et vous êtes à combien d'autorisation rejet ? 100. Vous voyez où on est ? Où est la proportion de rejet de tritium dans la nappe phréatique ? 7 becquerels litres sur deux piézos, alors qu'on en contrôle 20. On a été très, très fortement mécontent par le fait qu'on l'ait appris 3 mois après. Alors, la thèse de la centrale, c'est qu'ils ont déversé. Ils voulaient peut-être taire à l'incident du déversement parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait atteindre la nappe phréatique. Le problème, c'est que ça atteint la nappe phréatique et automatiquement, maintenant, on retrouve du tritium sous la centrale dans la nappe phréatique. Donc depuis, d'ailleurs, nous avons mis une convention en place avec EDF où la CLI, indépendamment des contrôles d'EDF, Nous contrôlons aussi la nappe phréatique, c'est-à-dire qu'il y a un double contrôle.
Avec vos propres moyens.
Avec nos propres moyens, grâce à l'aide du laboratoire départemental vétérinaire qui vient faire des prélèvements et qui analyse. D'ailleurs, c'est aussi au niveau, que ce soit de la chaîne alimentaire, les rejets dans l'air, sur les aliments, dans l'eau, c'est fait de manière indépendante par le laboratoire vétérinaire départemental qui est un laboratoire qui dépend du conseil général. Donc, qui est logiquement indépendant, et qui est même sûrement indépendant, qui n'a aucune attache avec la centrale, seulement d'avoir des conventions qui nous autorisent à rentrer quand même sur un lieu privé industriel, qui est une centrale nucléaire. EDF joue quand même le jeu, parce qu'il pourrait dire, attendez, c'est un endroit industriel, on n'est pas habilité à rentrer.
Mais c'est extraordinaire, toujours brillant, Monsieur Calafat. En fait, il y a deux émissaires pour les autorisations de rejet, je l'ai évoqué tout à l'heure, une cheminée pour l'atmosphère et des émissaires dans la Garonne, et c'est tout. Et le reste est interdit. Autrement dit, envoyer de l'eau dans la centrale par les voies de sol, c'est parfaitement interdit, c'est totalement réglementé. Donc là-dessus, quand même, c'est étonnant de voir qu'il n'est pas au courant de ça. Par contre, sur les niveaux qu'il évoque, alors là, il faut savoir quand même qu'on est à ce niveau-là en radioactivité, mais par mètre cube. 7 becquerels, c'est par mètre cube au niveau naturel. Et donc, on multiplie par 1000 dans cette affaire. Mais il considère que ce n'est pas grave. Et c'est sûr que par rapport à la réglementation permet, elle n'était pas satisfaisante parce qu'EDF Golfech a décidé, comme toutes les centrales françaises, de laisser le combustible plus longtemps dans le réacteur. Pour que ce soit plus intéressant, plus rentable, et donc de faire moins d'arrêts, puisqu'il coûte les arrêts de tranche. Il y en a un en ce moment et ça coûte de l'argent. Donc, espacer les
arrêts... Un arrêt de tranche, peut-être on peut préciser, ça veut dire d'arrêter un des réacteurs pour des histoires de maintenance.
Voilà. Donc, arrêter le
chargement du combustible.
Voilà. Donc, recharger un tiers du combustible du réacteur, le remplacer par du neuf. Et donc, si on enrichit davantage le combustible, on peut espacer ces fameux arrêts de tranche qui coûtent de l'argent à EDF. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on a des combustibles qui sont plus enrichis, qui polluent davantage et donc qui rejettent plus. Et à ce moment-là, en 2006, EDF fait une demande officielle pour changer la réglementation parce que à 80 000 milliards de becquerels sur le tritium, c'était pas suffisant pour elle. Donc elle veut passer à 100. 100 000 milliards de becquerels. Et elle fait une enquête publique spéciale pour obtenir ça, et elle l'obtient du gouvernement. Donc, après enquête publique, il y a autorisation de rejeter plus de tritium aujourd'hui dans l'environnement. Ce qui fait qu'à des moments, on peut avoir, après dilution, jusqu'à 100 becquerels par litre en aval de la centrale de Golfech en tritium. Ça, par la voie officielle, par la voie légale. Mais, comme c'est dit, c'est légal. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur la santé. Ça n'a rien à voir entre le légal et le sans effet sur la santé, c'est deux choses totalement distinctes.
Alors, qu'est-ce qui permet de fixer telle ou telle autorisation ? Enfin, quelles sont les personnes, les instances qui disent on accepte tant ? Et pourquoi ?
Voilà, alors ça, dans tous les pays au monde, et ça, on vient de le voir aussi récemment, mais j'y reviendrai après, c'est que chaque instance d'autorité se plie aux besoins industriels. C'est-à-dire que les réacteurs Candu, par exemple, canadiens, produisent énormément de tritium, dont les réglementations sont beaucoup plus élevées au Canada sur le tritium. Mais sur d'autres radioéléments, comme le carbone 14, c'est moins élevé. Donc tout dépend des technologies. Ce que font les autorités de sûreté nucléaire, elles adaptent les réglementations aux besoins de l'industriel. Et on ne part pas à l'envers de dire, voilà, à partir de cette dose-là, il ne faut surtout pas exposer les populations, et donc on limite techniquement les appareils. Non, il y a des problèmes de fonctionnement qui sont liés à des fuites, à des pressions, comme je disais, 150 bars sur un circuit, ça fait des fuites énormes, qui sont réinjectées, puis à un moment donné, elles sont trop importantes, donc elles sont rejetées à l'environnement. Et tout ça fait que c'est des volumes considérables. Donc les autorités de sûreté nucléaire, de tous les pays au monde, adaptent la réglementation. Et une parenthèse sur ces autorités, il y a eu des stress tests. Eh bien, ça y est, on peut le dire officiellement, suite à Fukushima, il y a eu des tests sur toutes les centrales nucléaires au monde, et chaque autorité de chaque pays dit, les centrales de mon pays sont sûres, elles peuvent continuer, elles résisteront à quelque chose qui sera équivalent à ce qui s'est passé à Fukushima. C'est entièrement faux. Mais c'est quelque chose que font toutes les autorités, donc l'autorité française, l'autorité japonaise vient de le faire aussi, il y a toutes les autorités qui le font, heureusement encore que il y a un peu de résistance politique et surtout un peu de résistance des populations, parce que sinon il y a longtemps que tout aurait repris son cours normal. Pour les industriels, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Voilà, donc ça c'était une parenthèse sur l'autorité de sûreté.
Et donc peut-être pour revenir sur les rejets, là, comme on en parlait, Calafa, dans l'entretien qu'on a fait avec lui, évoquait les rejets, en particulier sur la base d'un document qu'on lui a présenté, qui est donc un document issu d'arrêtés préfectoraux, qui évoque les quantités autorisées de rejets, et donc avec le document sous les yeux, il réagit.
Impossible. Si vous avez ce document, est-ce que vous l'avez, la preuve mathématique de tout ça? On n'a pas ça du tout.
Non, vous n'avez pas ces chiffres-là.
Voilà. Non, on n'a pas ces chiffres.
On a eu ça.
Pas ces chiffres, non. Ça, c'est les écolos qui ont fait
c'est
ça.
C'est une publication de Stop Golfers.
Oui, voilà. Mais voilà. Le problème, comme je vous dis, je maintiens ce que j'ai dit, c'est que les écologistes, il faut tenir compte de ce qu'ils disent, parce qu'il y a toujours une part de vérité, mm-hmm. mais ils ont tendance à exagérer.
D'accord.
Voilà. Donc. Trenton, rejet autorisé dans la Garonne. Non, est-ce que ce n'est pas le chiffre national, ça? Donc, vous rendez compte, 31 tonnes de sulfate
voilà,
par
ça.
Jour, c'est énorme. Bon, il n'y a même pas le tritium.
C'est
non,
là.
Moins que...
Il est là, ouais.
Voilà, tritium. Parce que là, le tritium, c'est 100 becquerels par litre.
C'est ça. Ça, oui, je suis d'accord avec vous sur le chiffre. Les rejets, on les contrôle en permanence. Bon, il y a des autorisations. Après, on peut dire les autorisations, elles sont un peu larges, elles sont un peu ceci, mais en fin de compte, ces autorisations, ces limites d'autorisation sont données par l'État en concertation avec donc toutes les personnes habilitées, scientifiques et autres pour dire qu'il n'y a aucun risque au niveau de la population. Donc, on n'a aucun risque.
Alors, ces chiffres.
Oh ben c'est extraordinaire, ce sont des chiffres officiels donc qui sont déposés en préfecture, qui sont déposés normalement il doit les avoir à la mairie en plus, donc ça c'est assez étonnant puisque vu qu'il c'est sa mairie qui a
on est à la mairie là. Hein.
Voilà, donc c'est la mairie de Golfech qui a vécu l'enquête publique, d'ailleurs qu'on a été fissuré parce qu'on a trouvé des documents, en fait il y avait un document d'enquête publique qui précisait relativement bien les choses, et à côté, il y avait une synthèse. Et la synthèse était une caricature où rien de ce qui était dans le dossier n'apparaissait. Donc c'était destiné au grand public, et c'était trompeur. Donc ce qu'on a fait, on a dit, ces pages, on a pris l'enquête publique, et on a été fissuré l'enquête publique en disant, cette page n'est pas conforme à la réalité, on l'a déchirée. Voilà, donc on déchirait des pages de l'enquête publique. Il a appelé la gendarmerie pour qu'on cesse notre fissuration. Et en fait, c'est assez étonnant que lui qui a eu ces chiffres les trouve incorrects. De toute façon, ils sont disponibles sur Internet et ils pourront être vérifiés et on les lui renverra avec plaisir.
Mais vous pouvez nous en lire quelques-uns parce que c'est quand même assez impressionnant justement.
Voilà. Alors,
moi
donc,
j'ai découvert là.
Voilà. C'est... Par arrêté préfectoral, il y a quelques limites comme qui sont fixées quotidiennes. Hein, donc c'est par jour.
C'est
31 tonnes de sulfate. Donc les sulfates, c'est des résidus de la chimie, parce qu'il y a des wagons de chimie qui rentrent à Golfech toute l'année, pour assurer, déjà, il y a le perchlorure de fer, par exemple, qui est produit chimique qui sert à enlever les éléments contenus dans l'eau, parce qu'il faut de l'eau propre, parce que si jamais on rentrait dans le réacteur une eau qui soit avec des éléments comme le calcium ou un tas d'éléments, sous l'impact des neutrons, tout ça ferait de la radioactivité supplémentaire. Déjà que dans le cœur du réacteur, sous l'impact des neutrons, il y a 1000 radioéléments artificiels qui sont créés par les fissions nucléaires. Si en plus on rentre une eau qui est pas filtrée, et qui comporte des éléments naturels, à ce moment-là, on aura encore plus de radioéléments artificiels qui seront créés dans le réacteur. Donc il faut beaucoup de chimie pour nettoyer tout ça. Il faut beaucoup de chimie pour faire circuler l'eau sur justement la tour dont on parlait tout à l'heure, pour les amibes, les gionella, et également pour enlever le calcaire. Donc tout ça fait qu'il y a énormément de chimie qui est utilisée. Et la réglementation fixe, par exemple, je prends les sulfates et c'est 31 tonnes par jour, maximum qui est autorisé. À un moment donné, après, il y a un débit par heure également qui est fixé. Il ne faut pas dépasser tant de tonnes par heure. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont dans la réglementation. Parfois, EDF Golfech frôle la réglementation. Sur certains éléments, elle la dépasse. En particulier, à un moment donné, on l'a vu et on a essayé d'attaquer là-dessus, on n'a pas pu. EDF Golfech ça c'est sur l'aspect pompage, a le droit de turbiner un certain volume d'eau par an. Et bien là, ils avaient largement dépassé, on a essayé de les attaquer dessus. Nous, on a eu les résultats un an après des données d'excès de pompage qu'ils avaient fait. Ils étaient en infraction, Sauf que le délai étant d'un an, on n'a pas pu poursuivre au tribunal. Sinon, on aurait attaqué, par exemple, là-dessus. Et dès qu'on trouvera des éléments sur ces rejets qui sont effectivement réels, après, donc, substances radioactives, bon, il y a d'antimoine, de l'argent 110, du césium 137, du chlore, du cobalt. Tout ça, c'est des radios. Parmi les 1000 radioéléments du cœur, il y en a quelques-uns qui s'échappent dans l'environnement. Et tout ça, nous, régulièrement, on va faire des prélèvements dans les algues en aval de Golfech. Et en amont, on montre qu'en amont, il n'y a pas de radioactivité artificielle, hormis l'iode 131, qui provient des hôpitaux et cliniques toulousaines. En aval, on retrouve du césium, on retrouve du chlore, on retrouve du cobalt, on retrouve des radioéléments. On ne le fait pas systématiquement parce que ça coûte très cher.
Et donc, vous faites vous-même ces prélèvements, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à ce laboratoire vétérinaire départemental dont parlait le maire un peu avant, en soulignant son indépendance?
On ne fait pas confiance, non, parce qu'en fait, ce que dit Alexis Galafard, il faut l'entendre, il dit logiquement, ils doivent être indépendants, mais bon, ils tournent un peu autour du pot. Non, le laboratoire, pour nous, de notre point de vue, n'est pas indépendant. Il est financé par le conseil régional, il y a des intérêts derrière par rapport au conseil régional, donc on ne peut pas le considérer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux laboratoires. Quand on veut avoir une certitude absolue, on envoie à la CRIRAD, qui est un laboratoire indépendant dans la Drôme, qui a été créé en 86 par des scientifiques qui s'étaient aperçus qu'on mentait sur ce qui se passait sur la réalité de Tchernobyl, et l'autre partie à la CRO, voilà, qui est un peu moins indépendant, mais qui est un laboratoire quand même, et qui nous permet d'avoir des données en général qui se confirment, voilà, sur la radioactivité, donc des... qu'on retrouve, en général, c'est des myriophiles. On ramasse des algues en aval de la centrale et en amont les mêmes, le même jour, pour faire les comparatifs. Et la dernière étude qu'on a fait, c'est sur le tritium, justement. On a trouvé du tritium dans les plantes et c'est des choses qui coûtent quand même relativement cher et qu'on ne fait pas à chaque fois. Pour une analyse de tritium, il faut 1000 euros. Voilà. Donc,
allez imaginer M. Marc Saint-Armand en slip dans la Garonne pour trouver ces myriophiles. C'était assez génial.
Et donc peut-être on va faire une petite pause musicale qui va revenir sur les rejets puisque il s'agit d'un morceau des Cramps et qui s'appelle Uranium Rock.
Pretty good rig. And when the needle starts clicking, I turn it. Money, 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 never come to mold. Money, 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 rock and roll. Make it in, make it up like hey, I have a rock and roll. Little spare wheel on the back. Oh man, don't you know I be hard to stop when I find that big ringing around. Money, money, honey, from the kind of old. Money, money, honey, rock and roll. Drink it in, fill it up like hey, I have a rock. Yes, that's me in my long Cadillac. I'm heading down the road and I ain't coming back. That ain't no red light gonna make me stop.
Donc c'était les Cramps et on est toujours sur le plateau de Comme à la radio, on parle de nucléaire et donc on évoquait tout de suite les rejets autorisés, etc. On avait envie de faire un petit détour par le contrôle qui existe autour des centrales nucléaires et entre autres avec les CLI, donc les commissions locales d'information, l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire et puis l'IRSN, on va en parler tout de suite, mais d'abord on voulait vous proposer d'écouter Monsieur Calafa qui parle de tout ça. Et donc, je vous le passe tout de suite.
Le rôle de la CLI, c'est donc de surveiller les informations transmises par la centrale et de les vérifier.
Et de voir s'il y a des contre-mesures qui sont mises en place pour améliorer le fonctionnement.
D'accord.
Donc, c'est quand même le rôle de l'autorité de sûreté. Hein. Nous, on est... L'autorité de sûreté, c'est quand même la police des centrales nucléaires au point de vue donc sécurisation des installations et du fonctionnement. Nous, on n'est que derrière pour voir, on est un peu le relais communication. L'autorité de sûreté nucléaire a dit à EDF, attendez, il faut faire ceci, cela pour améliorer. Nous, on regarde si EDF, derrière, a bien fait, s'il y a bien le retour en disant ceci a été fait, etc. Et nous-mêmes, quand il y a quelque chose comme le tritium, pourquoi ça a rejeté, comment et pourquoi nous n'avons... il n'y a pas eu encore les réparations de fait, ou etc. Dernièrement, la CLI s'est manifestée. D'ailleurs, même le conseil régional a pris une motion là-dessus. Depuis très longtemps, on demande ce que vraiment l'état sismique des installations soit vraiment contrôlé, parce qu'il y a apparemment un petit problème au niveau de la centrale de Golfech. Donc, ce n'est pas encore fait. La région a pris une motion. Après, à partir des interventions de la CLI, ça peut prendre des proportions supérieures. Et on met la pression maximum autour des parlementaires, autour des conseillers régionaux, toute la région, pour que ça puisse avancer et faire que l'industriel se mette à jour de ses installations.
Alors, cette CLI... se fonctionne, donc elle est là pour contrôler, voir si EDF met bien, de ce qu'il nous a expliqué, hein, met bien en place ce qui a été demandé par l'ASN. Vous avez participé à la CLI, il me
semble. Les Amis de la Terre, Toulouse Midi-Pyrénées, ont participé à sa création à la CLI.
D'accord.
Et nous en sommes partis.
Et vous en êtes partis. Pourquoi ?
Le problème, c'est que l'État français a toujours besoin des associatifs pour faire semblant d'être transparent. C'est une espèce de caution un peu morale. Vous êtes des associatifs, vous venez contrôler que tout va bien. Et en fait, on se rend compte que c'est faux, qu'on ne nous donne qu'une toute petite part de la vérité, que la transparence n'existe pas. Et nous, on sait qu'il y a beaucoup... On a encore cette semaine une personne de la CLI de Bretagne là, qui est partie parce qu'il est scandalisé. Donc... ne croyez pas que la transparence soit vraiment la tasse de thé d'EDF et de la nucléocratie, c'est faux.
Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, ça vaut quand même peut-être le coup de raconter un peu ce que c'est que la CLI. Il y a par exemple des individus de la société civile, des associations qui sont intégrés dans des espaces avec des politiques pour contrôler ce qui se passerait dans les centrales.
Voilà, donc c'est absolument ça, c'est associer la population. À la création des CLI, ça a été clair. C'était Pierre Mauroy, une directive de 81, qui disait « il faut de la transparence sur les CLI, donc on va faire ça ». Et au fur et à mesure du temps, les choses ont été claires. Si des CLI montrent de la résistance à travers les intervenants, à ce moment-là, on les dissout. Voilà. Ça a évolué depuis.
Ah, c'est arrivé ça.
Oui, au départ, c'était ça. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Ils ont trouvé les moyens de communication, tout ça, pour étouffer les velléités et décourager les dissidents. Et petit à petit, donc, ça a viré vraiment jusqu'à ce qu'il y ait Fukushima. Et là, on s'aperçoit que le gouvernement, donc, qui est très pro-nucléaire actuel, a décidé de donner beaucoup d'argent aux CLI. Voilà. Donc, il vient de décider que c'était un outil de communication indispensable pour pouvoir continuer le nucléaire. Et donc, il fallait les aider.
En quoi c'est un outil indispensable ?
Alors, c'est un outil indispensable parce que ça permet... C'est ce qui permet d'introduire le nucléaire dans la société française en écrétant tout ce qui peut être inquiétant, en rassurant, en filtrant. Donc, c'est tout un... Il faut savoir que les associatifs sont, pour part, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près une représentativité qui est très faible et qui est sans pouvoir. Elle a simplement le pouvoir d'émettre de quelques avis, etc. Mais il n'y a pas de travail sur le fond. Une de celles qui marchait le mieux au niveau de la France au tout départ, c'était en 89, donc elle avait démarré, c'est celle de Golfech. C'était celle-là qui marchait le mieux, qui avait fait un colloque sur le nucléaire, qui avait organisé pour voir réellement ce qui se passait. Et ça a bien fonctionné à ce niveau-là.
Mais alors du coup, qui est-ce qu'il y a dans la CLI ? Est-ce qu'il y a des associatifs, on va dire, voilà. Mais qui d'autre après ?
Donc il y a des syndicalistes DDF, il y a médecins DDF, il y a des gendarmes, il y a des représentants de l'autorité donc politique, et il y a quelques associations.
C'est-à-dire autorité politique,
C'est-à-dire le préfet ou son représentant. C'est un organisme qui en fait sert à faire continuer le nucléaire. Ce que ressent M. Calafat, c'est que grâce à la CLI, on va pouvoir faire un nucléaire, on va pouvoir surveiller, ça va pouvoir bien fonctionner. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que nous, on en est convaincus, même avec un bon fonctionnement, même avec des bons investissements, même avec des salariés bien payés, tout ça, c'est un rêve. Mais bon, même dans ces conditions-là, le nucléaire restera intrinsèquement dangereux. À un moment donné, on aura, comme à Fukushima, une perte d'alimentation électrique ou une perte de source froide qui feront qu'on aura une fusion. On en a eu de nombreuses à travers le monde, et ça continuera, parce que de toute façon c'est intrinsèque au nucléaire, ce principe-là. Sauf que, donc, sur les CLI, à un moment donné, il évoque l'autorité de sûreté nucléaire. Là, son expert technique, c'est assez compliqué, c'est l'IRSN, donc je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'Institut de Recherche et Sûreté Nucléaire, qui est issu de la fusion de l'OPRI, qui est le médecin du nucléaire, et de l'IPSN, qui était le médecin du nucléaire. Cette fusion-là a constitué l'IRSN.
L'IRSN. C'est quoi, Institut
de Recherche et de Sûreté nucléaire.
D'accord.
Et donc, en préalable, dans les constitutifs, il y avait ces deux parties, et dont une, l'OPRI, qui était au départ le SCPRI. Alors, le SCPRI, pour mémoire...
Là, ça devient très, très compliqué.
Le SCPRI, c'est 86, c'est le nuage de Tchernobyl. C'est ceux qui arrêtent le nuage à la frontière, c'est ceux qui disent on peut consommer des tonnes et des tonnes de... Il faudrait consommer 100 tonnes d'épinards, c'était le professeur Pellerin, pour commencer à avoir des problèmes de santé. Des épinards qui étaient à plusieurs dizaines de milliers de becquerels par kilo. Donc c'était absolument faux. Un enfant obtenait la dose avec une seule simple soupe d'épinards, c'était fini. L'enfant avait sa dose limite annuelle qui était atteinte. Donc tous ces mensonges-là du SCPRI, on remonte la chaîne et on arrive aujourd'hui avec l'IRSN, qui se retrouve... En particulier, donc, sur une étude épidémiologique qui se fait à Lagues en 97, il y a une étude épidémiologique autour de Lagues où il est montré qu'il y a un excès de leucémie et de cancer infantile autour de Lagues. Aussitôt, l'IRSN fait la démonstration qu'il n'y a pas de dose suffisante pour provoquer ça et donc balaye l'étude du professeur Jean-François Viel qui, lui, se retrouve balayé. Il quitte le secteur de recherche nucléaire parce qu'il n'en peut plus de dépression et du discrédit qu'il a. Et il fait un excellent travail derrière. Donc ça a servi la société française. Et donc, sur cette affaire de suivi, l'IRSN réintervient à nouveau quand une étude paraît en Angleterre sur des cancers autour de Sellafield, réapparaît à nouveau autour de l'étude allemande autour des centrales nucléaires sur les excès de leucémie et vient de réapparaître sur les cancers autour des centrales françaises.
Pour
voilà.
Dire quoi ?
Et pour dire que, de toute façon, les doses sont injustifiables, ne justifient absolument pas l'excès de leucémie et de cancer, qu'il n'y a pas, de problème de ce côté-là, et que donc on peut dire que les centrales nucléaires ne sont pas en cause. Voilà. Donc ces organismes-là, l'IRSN, qui est l'organisme technique de l'ASN, du gendarme, est déjà, on va dire, vérolé. Donc pour le gendarme du nucléaire, il se retrouve dans des conditions où lui aussi doit assurer une indépendance, puisqu'il est nommé par le Premier ministre, il a été nommé, donc André-Claude Lacoste a été nommé, qui est le patron de l'autorité de sûreté nucléaire jusqu'à l'an prochain encore, après il sera remplacé par quelqu'un d'autre, il a soi-disant une indépendance, on s'interroge sur son indépendance, puisque, on vient de le voir, nos réacteurs sont conformes, ils ont passé l'épreuve des stress tests, voilà, donc en France on n'a pas de problème, alors que la réalité est tout à fait autre.
Moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Comment quelqu'un qui est nommé par le Premier ministre, le Premier ministre d'un État qui est pro-nucléaire, pourrait-il être indépendant ?
Bon, alors là...
C'est peut-être un raccourci, mais...
Oui, bon, en principe...
J'arrive pas à comprendre.
Oui, voilà. c'est vrai que c'est assez suspect à ce niveau-là. Et c'est vrai que André-Claude Lacoste a toujours cherché à montrer une indépendance. Il a toujours cherché à dire, moi je pense comme ça, il a cherché à le montrer. Mais dans les faits, aujourd'hui, c'est assez peu crédible. Il y a quelques... C'est comme chez l'IRSN. Il y a quelques scientifiques et quelques fonctionnaires qui travaillent correctement. Mais globalement, ils ont quand même des contraintes qui font qu'ils ne peuvent pas faire ressortir leur travail. Et en particulier, sur une carte qui est sortie en 86 sur la contamination de la France, il y a eu de violents combats à l'intérieur de l'IRSN pour dire « cette carte, il ne faut pas la produire », et les autres qui disaient « mais c'est la réalité, il faut la produire ». Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on est quand même pas dans quelque chose de très simple sur cette affaire de contrôle et de gendarmerie du nucléaire.
Mais un gendarme sans pouvoir, parce que l'ASN, quel est son pouvoir? Elle ne peut pas dire « c'est toujours des textes, oui, faites ça, mais après ». Jamais il y a de contrepartie financière en disant si je fais pas une maison en retard, je suis architecte. Aussitôt j'ai des pénalités si je rentre pas dans les délais. L'ASN, rien. Elle donne des textes.
Une seule fois, elle a arrêté le réacteur. Elle a arrêté un réacteur parce que l'enceinte était trop fuyarde. Elle était hors norme. L'ASN arrête le réacteur. Le premier ministre d'époque, qui était Lionel Jospin, a fait une autorisation pour autoriser le réacteur à fonctionner en dehors des normes de sécurité. Voilà.
Oui, d'ailleurs, c'est pas arrivé, ça aussi, que l'ASN donne des dérogations par rapport à l'utilisation de l'eau pour le refroidissement en cas de canicule. Il y avait eu ça aussi.
Ça, oui, vous avez raison, c'est un bon cas. En 2003, il y a eu en gros une quinzaine d'infractions à Golfech sur les températures, les dépassements de température, qui, en plus, avaient été élevé momentanément pour des périodes brèves par le préfet. EDF a quand même violé ses autorisations et à ce moment-là, c'est le ministère qui a pris le relais, qui a encore relevé pour des périodes plus longues. Et encore, il y a eu des viols. Et dans toute cette période-là, en 2003, il n'y a pas eu la moindre contravention.
Bon, mais alors, de fait, c'est quoi le rôle de l'ASN ?
Mais l'ASN, elle essaye, comme je l'ai évoqué dans le cadre de l'enceinte fuyarde, elle a essayé de faire quelque chose. Elle n'y est pas arrivée. Il y a quelque temps, Fukushima. Aussitôt, André-Claude Lacoste dit « moratoire sur la construction de l'EPR ». C'était le 30 mars 2011. Le lendemain, Nicolas Sarkozy arrive, il dit « il n'y a pas de moratoire sur l'EPR ». Voilà. Donc c'est des choses relativement claires. Lui, il essaye de faire son travail, il a de la difficulté parce que c'est quand même une grosse responsabilité, mais de l'autre côté, le politique prend le dessus. Deux exemples où le politique prend le dessus sur le gendarme nucléaire. Et comme le disait Daniel, les condamnations ne tombent pas. Et c'est nous qui avons, avec cette histoire de Golfech, pour la première fois, été au tribunal de police pour essayer de faire condamner une infraction de Golfech. Et de toute façon, on est en appel. Et de mon point de vue, on arrivera à faire condamner Golfech.
Parce qu'il y a les contrôles qui sont faits de façon indépendante et tout ça, qui permettent à des moments de mesurer des infractions ou des dysfonctionnements. Mais sinon, tout ce qui est traité et tout ce qui a vocation à donner lieu à un travail de l'ASN, de la CLI, etc., ce sont des informations données par EDF, donc on bon vouloir de l'industriel.
Absolument. La base de l'information est globalement EDF. Et ça, c'est un excellent exemple que vous évoquez parce que sur les incidents 2010, on est dans les records à Golfech. Il y a, d'après EDF, 19 incidents qui sont survenus à Golfech. L'ASN écrit 22. Eh bien, nous, on en compte 29. Voilà. Donc, EDF Golfech fait disparaître de ses comptes 10 incidents en 2010. C'est extraordinaire. Et là-dessus, tout se passe dans le plus grand silence. On découvre ça, nous, à partir du moment où on a les données, qu'on les épluche, mais c'est un travail à faire au niveau de la France et il faudrait vraiment des institutions pour faire ça. Mais l'ASN n'a pas la possibilité, elle n'a pas suffisamment d'argent pour faire ce travail sur le terrain. Enfin, il n'y a pas une volonté de... Par contre, les CLI, oui, là, on met de l'argent dans la CLI, parce que là, on va pouvoir mieux communiquer auprès des populations locales pour les rassurer, les endormir.
Parce qu'un des trucs que disait Calafa sur le rôle de la CLI, c'est de traduire le discours scientifique en discours vulgaire pour le commun des mortels, et puis du coup de diffuser d'informations régulièrement sur les centrales avec, je crois, une diffusion d'un journal deux fois par an à 60 000 exemplaires, c'est-à-dire de baigner la région d'une information qui serait censée être sûre sur ce qui se passe dans la centrale.
Voilà, ça c'est une excellente image, et ça me fait penser à François Chevalet, qui était donc le spécialiste pendant des années, qui est venu nous parler de Tchernobyl, du nucléaire, et il a dit récemment sur une radio locale, il a dit, mais de toute façon, moi quand j'avais un problème, j'entendais parler de quelque chose, j'appelais mes amis du CEA ou d'EDF, et ils m'informaient. Voilà, donc sa source c'était vraiment le lobby nucléaire. Et alors que là, il faut être surtout en dehors de tout ça. Et comme vous le dites, la base des éléments de l'autorité de sûreté nucléaire est malheureusement le travail d'EDF. Et de façon indépendante, c'est très très difficile.
Et vous contrôlez quand ? Vous contrôlez quand ça va mal ou vous contrôlez quand ça va bien ? Parce que qu'est-ce que fait EDF ? Quand il fait des prélèvements, il cherche toujours les moments les plus favorables pour lui. il cherche des moments où il est sûr que ces seuils ne sont pas atteints. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment beaucoup de contrôle inopiné. Il faudrait qu'on puisse surveiller beaucoup plus d'une façon indépendante. Aujourd'hui, c'est toujours EDF qui nous donne les chiffres. Ils sont toujours bons.
Alors peut-être on vous propose d'écouter un extrait du discours de Calafa où il explique comment EDF communique avec eux.
On m'avertit pour dire qu'il y a un gars qui s'est foulé la cheville en descendant l'escalier. Parce que j'ai lancé un SOS au niveau de toute la population, il y a un gars qui s'est foulé la cheville à la centrale. C'est ça, c'est vraiment, il manque un boulon sur une armoire électrique.
Vous êtes averti de ça par la centrale?
Et je suis averti de ça, à 2h du matin, à 3h du matin, à n'importe quelle heure. Mais voilà, je vous dis, ils disent tout. Il y a eu des loupés, mais il y a eu des loupés dans le cas du tritium parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y allait avoir des suites. S'il n'y avait pas eu de suite, le fait du déversement, on l'aurait jamais su.
Mais ça veut dire que c'est la centrale qui décide s'il y a des suites ou pas.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie d'améliorer en permanence sa transparence. Et quand on réfléchit à ce qui se disait, ce qui se faisait en 89 et ce qui se fait maintenant, il y a quand même eu une évolution importante, malgré que ce soit loin d'être parfait. On demande à améliorer. Alors, quand vous les écoutez, bon, ça a été un oubli parce qu'on pensait... Ou, non, ils nous disent plutôt qu'ils attendaient de voir ce qui se passe avant de passer l'information. Comme j'aurais dit, vous auriez pu dire que vous aviez débordé, puis après, on aurait surveillé en même temps, ensemble. Bon.
Pour le boulon, ils n'oublient pas de vous appeler.
Exactement. Donc, je suis entièrement d'accord. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas parfait. Mais on ne désespère pas, et heureusement que l'on n'a jamais désespéré, puisqu'il y a quand même une évolution toujours dans le bon sens. Puis, on arrive à travailler en meilleure intelligence. C'est là qu'il ne faut pas non plus, quand une entreprise joue les formes. C'est vrai que c'est sensible le nucléaire, etc. Mais il faudrait quand même que tout le monde le fasse, que ce soit dans la chimie et autres. Quand je rappelle quand même que où il y a eu le plus de morts, c'est quand même dans la chimie en Inde et autres. Vous vous rappelez de quelques incidents quand même majeurs où il y a eu des milliers de morts. Donc, quand un industriel joue le jeu, il ne faut pas non plus, dès le moindre incident, boum, boum, on joue notre jeu aussi en disant, bon, il faut améliorer, etc. Quand c'est important que ça touche à la vie journalière des habitants, c'est de suite d'informer. Mais comme je vous dis, au niveau technique, là, on vous dit, par exemple, le diesel de secours n'a pas démarré, parce qu'il faut des exercices, il y a eu un incident. On le sait, le diesel de secours n'a pas démarré. Bon. J'ai averti la population, pourquoi dire à la centrale nucléaire, le diesel... De toute façon, au niveau de Golfech, c'est pas trop gênant, ils le savent, même au niveau des communes environnantes, parce que les agents EDF, ouais, on a fait les machins, bon, il y a eu un problème, tout le monde... Ça se sait par la bouche à oreille.
Alors, donc EDF informe directement, mais quand même, les choses, on apprend des choses par les salariés d'EDF, plutôt par le bouche à oreille. C'est quoi ces deux discours? Qu'est-ce que vous pensez?
C'est-à-dire que, évidemment, ils parlent de la foulure ou du boulon, ça c'est sûr que EDF n'hésite pas à communiquer là-dessus. Par contre, quand il y a un plan d'urgence interne qui est déclenché intempestivement, ce qui s'est produit récemment, il était fou de colère. Votre interview est postérieure à cet événement.
Il nous en a parlé de cette sirène donc, qui s'est déclenchée sans raison, visiblement, mais qui a alerté toute la population. Il nous a d'ailleurs dit à cette occasion que tous les plans de protection, ou je ne sais plus comment ça s'appelle,
PPI,
les
PPI,
etc., valaient pas grand-chose, puisque évidemment, les gens sont tous sortis dans la rue alors que les consignes étaient de rester calfeutré à la maison. Quoi. Donc si, il l'a évoqué ça, il était effectivement en colère de ne pas avoir eu l'information.
Ça m'étonnait qu'il n'ait pas... Mm-mm. Bon, ce qui est... Sur l'information en fait, sur la communication, même s'il lui est informé, bon, il recevra des appels, il s'est insurgé parce qu'il n'y avait pas de système de relayage direct vers les populations, bon, en fait des questions techniques. Mais la réalité est là, c'est que si on a un problème majeur qui se produit à Golfech, on se retrouvera comme à Fukushima avec des plans qui ont été prévus, préfectoraux qui ont été prévus et qui seront appliqués. Et qui seront appliqués de façon aveugle, c'est-à-dire que s'il y a un vent de nord et que les populations doivent être évacuées dans un rayon de 10 km, on ne tiendra pas compte que le vent soit du nord, puisque de toute façon on ne peut pas le faire. Donc on appliquera bêtement un rayon de 10 km autour de la centrale pour évacuer, ce qui s'est fait au Japon. Ils avaient un logiciel qui était très performant, qui leur permettait de dire là où il fallait instantanément évacuer les populations, ils ne l'ont pas fait, parce que c'était des millions de personnes qu'il fallait évacuer. Donc on reste dans des abaques qui sont rassurantes, un peu comme la pastille d'iode qu'on va prendre, donc c'est l'iodure stable qu'on va prendre, qui va saturer la thyroïde. je dis pas que c'est pas efficace, c'est très important de prendre déjà de préserver sa thyroïde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un élément parmi un tas d'autres. Donc c'est pas, c'est, on rassure à travers cette pastille, j'ai pris ma pastille, je suis, non, je me suis protégé la thyroïde. J'ai pas protégé les os, j'ai pas protégé le cerveau, la moelle épinière, j'ai rien protégé, j'ai protégé la thyroïde. Mais je dis pas qu'il faut pas le faire, surtout pas au contraire. Et malheureusement, il faut le faire avant que le nuage toxique arrive. Alors que pour les riverains de Golfech, ça veut dire dans les secondes, quoi. Donc c'est très très difficile. Donc on est dans des choses théoriques. Enfin, pour nous, l'affaire est claire. CLI, tout ce qu'on veut, l'urgence, c'est d'arrêter ce système de réacteur. Et quelqu'un disait hier encore, c'est difficile, mais on le vérifie, on peut décider de mettre 8 réacteurs à l'arrêt politiquement, comme l'a fait Angela Merkel du jour au lendemain.
Et ben pour parler de ça, une des discussions qu'on a eues aussi avec Calafa revenait sur Fessenheim et les vieux réacteurs.
Suivant ce qui va se passer prochainement au niveau politique, il risque d'avoir Fessenheim qui va payer un peu le tribut de peut-être politique comme il y a eu lorsqu'en 80 est arrivé Mitterrand, Crémalville qui a fermé. Je dis que c'est dommage. Pourquoi ? Parce que Fessenheim, c'est la plus vieille des centrales. Derrière, on parle de prolonger la vie des centrales. Donc Fessenheim aurait été toujours devant pour voir comment qu'elle se comportait, quitte à la fermer immédiatement dès le moindre incident majeur. Mais actuellement, Fessenheim est en état de marche, peut marcher aussi bien que Golfech. Donc si on la ferme, c'est une fermeture politique.
Fermeture politique. Quand on voit ce qui s'est passé, puisqu'il évoque Superphénix, c'est quand même surprenant, puisque c'était la plus grosse quantité de sodium jamais réunie au monde, la plus grande quantité de plutonium jamais réunie au monde, donc c'était pas politique, c'était vraiment technique. Tout le monde avait peur, les Allemands, les Suisses et les Italiens, tout le monde avait peur de Superphénix. Et heureusement que Superphénix a été mis à l'arrêt. Pour ce qui est de Fessenheim, c'est surprenant, parce que décision politique pour des réacteurs qui ont été prévus pour fonctionner 30 ans. Donc ils ont été prévus pour ça. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on dit 40. En 2003, Rousselip, qui est patron d'EDF, signe 40 ans. Voilà. Mais il a signé, mais techniquement, on est toujours sur des réacteurs qui ont été conçus pour 30 ans. Et on se retrouve dans cette impasse. Et aujourd'hui, ce que fait EDF et le directeur de Fessenheim le déclarait la semaine dernière, on ne va pas attendre les élections pour prendre des décisions. Nous, on est des industriels et ils ont lancé le fait de pouvoir mettre des grosses sommes dans la prolongation du réacteur. Du réacteur de Fessenheim pour pouvoir prolonger sa vie 10 ans de plus. Il faut savoir que déjà l'état de la cuve, l'ASN le disait il y a 15 ans, en fait c'était son prédécesseur qui était le bureau des chaudières nucléaires et qui disait au-delà de 3 ans on peut rien dire chaque fois, ça sera des périodes, si c'est des périodes de prolongation ça sera 3 ans, jamais ça sera 10 ans parce que c'est trop atteint. Et donc ça c'était il y a très longtemps et aujourd'hui tout ça s'est balayé et on aurait donc la possibilité de continuer sur 10 ans de plus. Il y a quelques jours, le 25 avril, il y a eu un incendie sur la partie non nucléaire, comme ils disent, de l'installation de Fessenheim. Voilà, donc c'est un réacteur qui est très très vieillissant, comme tous les réacteurs français, ce qui ne veut pas dire de notre point de vue, et ça c'est même l'AIEA qui l'a dit il y a un mois, qui a dit, mais les réacteurs... L'AIEA, à l'Agence Internationale Énergie Atomique. Donc c'est la pieuvre, la tentaculaire qui développe le nucléaire au niveau mondial, qui a étouffé également, comme l'a fait la France, l'impact de Tchernobyl sur le monde, qui est en train de minimiser l'impact de Fukushima. Et donc cette pieuvre-là disait, attention, sur les réacteurs neufs, il y a des problèmes. Et on a eu la preuve, puisque Sri Mala Island en 79, et le réacteur avait quelques mois, c'est pour ça que la cuve a tenu, parce qu'elle était entièrement neuve, et Tchernobyl était un réacteur qui avait 3 ans. Donc on était sur des réacteurs neufs. Et l'AIEA dit « attention aux réacteurs neufs, il y a un mois ». Alors que Fukushima a eu lieu il y a un an. Donc quand on nous dit aujourd'hui réacteur vieux, réacteur neuf, etc., il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de vérité en matière scientifique. Et ce qui est sûr, c'est que la première puissance technologique au monde a échoué à Fukushima. Et aujourd'hui, donc, entendre des propos comme ceux de M. Calafa sont consternants.
Donc on doit préchauffer l'eau, raconte.
Oui, la cuve a tellement perdu d'élasticité, elle est tellement vieille à Fessenheim que déjà le retour d'eau ne peut pas se faire de façon froide, sinon la cuve risquerait de péter comme une coupe de champagne. Donc on est obligé de faire un retour d'eau très chaude vers le réacteur. Normalement, c'est de l'eau froide qui revient. Là, on ne peut pas, parce que sinon la cuve pourrait péter comme une cuve de champagne, un verre de champagne.
C'est pas pour refroidir le réacteur qu'il faut de l'eau, justement ? Non, pas là.
En fait, justement, c'est l'eau qui vient refroidir le réacteur, elle est chaude.
Ah oui, mais voilà.
Parce que si elle était... normalement, la cuve du réacteur résiste à moins 40 degrés. au départ, à sa conception. Et en vieillissant à Golfech, à Fessenheim, on est passé à plus 70 degrés. Donc il faut ramener l'eau chaude jamais en dessous. Et si par hasard il y avait un problème de fuite sur la centrale, il faut injecter de l'eau dans le réacteur qui sera à une température supérieure à 70 degrés. Donc il chauffe en permanence de l'eau pour pouvoir prévoir une injection d'urgence. Voilà.
C'est délirant.
Tout va bien à Fessenheim, tout va bien.
Tout va très bien.
Et donc tout va bien à Fessenheim et dans les autres centrales nucléaires. Cette fois-ci, on n'a pas du tout évoqué la question des travailleurs précaires et du coup du boulot mal fait, en plus de tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans les centrales qui mettent en danger le fonctionnement correct des centrales et le fonctionnement correct des individus dans ce monde. Mais ça va être la fin de cette émission. Et du coup, on va se quitter peut-être avec un dernier mot de votre part.
C'est en fait donc ce que prépare EDF, c'est la continuation sans l'avis du politique, parce qu'éventuellement, donc s'il y avait un changement politique, il pourrait y avoir quelques révisions, même si elles sont à la marge, il pourrait y avoir quelques révisions. Et donc, c'est de rendre irréversible la prolongation des réacteurs en investissant des millions. Et il y a déjà une commande qui a été faite il y a 8 mois pour des générateurs de vapeur, donc c'est des mastodontes de métal qui vont être remplacés sur des réacteurs comme Golfech. À force de fonctionnement, des tuyaux sont bouchés, le rendement du réacteur baisse, donc ce qui va être fait, c'est des pièces maîtresses qui vont être remplacées. Et les commandes ont été faites par EDF à Areva pour un montant énorme, et tout ça s'est mis en route à l'insu du politique pour rendre obligatoire la prolongation des réacteurs nucléaires. Voilà. Donc ça, c'est le premier piège qui est aujourd'hui mis en place, et comme je disais tout à l'heure, le directeur de Fessenheim dit « mais on va pas attendre les décisions politiques pour agir ». Et il essaye de prendre le politique au piège de la prolongation des réacteurs.
On n'a pas parlé du coût du nucléaire non plus, du véritable coût. Bon, il y a beaucoup de choses. Il aurait fallu au moins 2 heures d'émission. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être
venus. Oui, je remercie M. Calafate parce que là, il nous montre la façon dont on se moque de nous. Une centrale propre, sans poussière, la peinture, le bruit. Enfin, c'est, voilà, il fait son boulot correctement, mais c'est un mensonge éhonté.
Ben, merci.
Merci.
Donc on se dit au revoir à dans un mois sur comme à la voilà sur comme à la radio avec les travailleurs du nucléaire. D'ici là, l'émission sera rediffusée dans 15 jours de 17h à 18h sur Canal Sud 92.2. Au revoir.
Merci.
Merci.
Sort of a Caribbean no nuke song. Mankind is cursed. He's ruining the sky and the ocean even worse. But I'll predict the cause of his eradication from the earth. Oh, plutonium is forever. Now oil slicks someday will disappear. We'll stop dumping PCBs in a few years. But there is one pollutant that we should really fear. Oh, plutonium is forever. But will it go away? For Afribus is never. It will be here past today. Yes, plutonium is forever. Now carbon monoxide can only steal your breath. Asbestos poisoning give the workers a horrible death. The aerosol and the Concorde make sure there's no ozone left. But plutonium is forever. John! Yes, plutonium is forever.
Now some want the oil company to have to face divestment, and some want the utility to be denied the rates adjustment. But now they're all after plutonium, that think it's such a good investment, because all